Le plat de Ristin jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on revient sur ce qu'il s'est passé il y a presque un an, le 25 mars 2023 à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Une énorme manifestation contre les mégabassines et l'accaparement de l'eau s'y était déroulée et avait été lourdement réprimée. Un an après, qu'est-ce qu'il en reste? Où en est cette lutte? C'est ce qu'on va demander à nos invités, un militant et un sociologue. À 13h, dans le guide du Bordeaux colonial, il sera question du Sénégal. Après un coup de force institutionnel, le report de l'élection présidentielle et l'emprisonnement d'opposants politiques, eh bien le vote aura bien lieu dimanche et Gérard revient sur tout ça avec ses invités, trois personnalités sénégalaises de Bordeaux. Avant tout cela, on commence avec quelques infos. Bonjour Léa.
Bonjour Baptiste.
Hier, mardi, avait lieu une mobilisation intersyndicale dans l'éducation nationale et la fonction publique.
Oui, les syndicats revendiquent une augmentation générale des salaires, leur indexation sur les prix et l'amélioration des conditions de travail des salariés au sein des services publics. Dans son communiqué, la CGT rappelle que l'objectif de ces mobilisations est de, je cite, « refuser une nouvelle politique d'austérité suite à la décision du gouvernement d'acter une coupe budgétaire de 10 milliards d'euros avec des répercussions sur le travail, notamment en direction des plus précaires, sans cesse dans le viseur du gouvernement. » Hier midi, une délégation composée de la CGT, de Force ouvrière, de la FSU et de la CFDT a été reçue par la préfecture et plus d'un millier de personnes ont manifesté dans les rues de Bordeaux selon le Sud-Ouest et la CGT. Cette mobilisation prend place au sein de la semaine d'action non au choc des savoirs, oui au choc des salaires et des moyens pour un autre projet pour l'école. La grève continue aujourd'hui avec un rassemblement en ce moment même devant le rectorat de Bordeaux. Par ailleurs, toujours hier aux alentours de 13h, la rocade a aussi été bloquée pendant une vingtaine de minutes par une opération escargot initiée par le collectif des infirmiers libéraux qui poursuivit en direction des quais et de la place Gambetta.
Hier a eu lieu également le lancement de la sécurité sociale de l'alimentation en Gironde.
Cette expérimentation de caisse commune réunit le collectif Acclimatation, 80 citoyens et citoyennes issus d'un parcours d'engagement, le département de la Gironde et la mairie de Bordeaux, et concerne 4 territoires dont Bègle, Bordeaux, le Pays Foyen et le Sud Gironde. Le 7 mars dernier, nous avions reçu Estelle Salavoutas du Centre Social Bordeaux Nord et Lucille Lucas du collectif Acclimatation pour cette occasion dans le plat de résistance et nous vous invitons à réécouter le podcast sur le site de la Clé des Ondes.
Et puis deux appels à mobilisation et à soutien. Le premier, c'est une journée en soutien à la Palestine.
Oui, dimanche 31 mars, le Rocher de Palmer et plusieurs artistes bordelais lance un concert de soutien au peuple palestinien. Cette mobilisation permettra d'alimenter un fonds créé par le musicien Ramzi Abou-Redouane et le conservatoire Saïd à Ramallah, qui sera ensuite reversé aux artistes palestiniens et palestiniennes qui survivent à Gaza. Je rappelle la date, dimanche 31 mars à 14h, au Rocher de Palmer à ce nom.
Et puis le deuxième, c'est un appel à mobilisation pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah.
Oui, une manifestation aura lieu à Lannemezan, ville où Georges Ibrahim Abdallah est emprisonné, le samedi 6 avril prochain à 13h. Le collectif Libérons Georges 33 lance aussi un appel à la solidarité financière pour recueillir des dons qui permettront d'affréter deux bus qui partiront de Bordeaux pour rejoindre la mobilisation du 6 avril. Leur communiqué rappelle, je cite, « En juin 2023, l'avocat de Georges Abdallah, maître Jean-Louis Chalancé, a déposé une nouvelle demande de libération conditionnelle devant le juge d'application des peines de Paris. Alors que le peuple palestinien subit un génocide depuis plusieurs mois dans la bande de Gaza, que la colonisation et les exactions continuent en Cisjordanie, nous devons plus que jamais soutenir la résistance du peuple palestinien et exiger la libération de Georges Abdallah. »
Merci beaucoup Léa pour toutes ces informations. Midi 14 sur la Clé des Ondes. Alors le 25 mars 2023, Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, était le théâtre d'une mobilisation historique pour la défense de l'eau, contre la construction de mégabassines et contre un modèle agricole destructeur. Manifestation historique par le nombre de manifestants, 20 à 30 000 personnes au beau milieu des champs. Historique aussi par la violence de la répression policière, violence des discours politiques et parfois médiatiques contre les militantes et les militants. Aujourd'hui, presque un an après, on revient sur tout ça, sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline, ce que signifie Sainte-Soline et aussi ce qu'il en reste, comment cette histoire a alimenté et continue d'alimenter les mouvements mouvements sociaux et les mouvements écologistes. Plusieurs événements ont lieu ces jours-ci qui continuent justement de faire vivre cette lutte. L'apparition il y a peu d'un ouvrage, Avoir 20 ans à Sainte-Soline, sous la direction du collectif du Loriot aux éditions La Dispute. Également la journée mondiale de l'eau qui a lieu comme chaque année le 22 mars, ce sera ce samedi, ce vendredi plutôt. Et puis un programme d'action et commémoration de la mobilisation d'il y a un an dans les Deux-Sèvres et partout en France, notamment à Bordeaux. Pour parler de tout ça, j'accueille deux invités. D'abord Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Tu es membre de Bassine Non Merci. Gwendal Roblin, bonjour. Gwendal, est-ce que tu nous entends ? Alors, bon, Gwendal, la communication a l'air compliquée, on va se rappeler sur le téléphone, ce sera peut-être plus simple. Gwendal Roblin, sociologue donc à l'université de Poitiers et membre du collectif du Loriot qui a coordonné l'ouvrage « Avoir 20 ans » à Sainte-Soline. On va parler de récits et de contre-récits de ce qui s'est passé le 25 mars 2023 à Sainte-Soline. Du coup, j'ai envie de commencer par une question personnelle. Vos récits à chacun de vous, comment vous avez vécu cet événement ? Qu'est-ce qu'il vous reste comme image, comme ressenti de cette journée du 25 mars ou du week-end de mobilisation ? Mathieu, qu'est-ce que toi, il te reste de ça ?
C'est complexe et c'est très vaste. Il reste beaucoup de choses, il reste beaucoup de détermination, il reste beaucoup de colère, il reste beaucoup de traumatisme, il reste beaucoup de joie aussi, parce que à chaque fois on parle de la mobilisation en tant que telle, de la manifestation et de la violence, de la répression qu'on a subie. Il reste aussi beaucoup de joie parce que ce week-end-là, il y avait la manifestation, elle a concerné que quelques heures sur tout un week-end où il y a eu des rassemblements très divers. Et des tables rondes et des rencontres avec des luttes autour de l'eau et de l'accaparement et des pratiques agricoles extractivistes en général, et avec des personnes, des collectifs qui sont venus de toute la France, de toute l'Europe, avec des représentants de peuples autochtones ou d'autres pays qui venaient pour la peine du monde entier. Et donc il y avait toute cette diversité-là. Après, pour la manifestation en tant que telle, clairement un traumatisme, un choc ultra lourd, à la fois dans la répression violente en tant que telle, dans l'obstruction des secours pour pouvoir permettre l'évacuation des blessés, et dans tous les mensonges d'État qui ont suivi, que ce soit au niveau de la préfecture ou du ministre lui-même.
Et de tout ça, il reste un élan, enfin à la fois sur l'aspect plus voilà, dynamisant de la présence pendant tout le week-end, tu le disais, de gens du monde entier, etc. Et sur l'aspect plus douloureux du traumatisme, vous en sentez encore l'effet et le souffle, j'ai envie de dire ?
Oui, tout à fait. On en parlera tout à l'heure, mais il va être diffusé lors du rassemblement local à Bordeaux un nouveau reportage qui vient toujours de sortir par Off Investigation, qu'on diffusera le lundi 25 mars à Bordeaux dans le cadre des événements de commémoration qui ont lieu un peu partout en France. Et je l'ai vu la semaine dernière et le fait de le revoir est complètement bouleversant. C'est un récit qui est indispensable pour faire face justement à ce récit officiel et ne pas lui laisser la place usurpée qu'ils ont essayé de mettre en place. Mais c'est rien que de revoir ça, c'est des choses qui sont bouleversantes, traumatisantes et qui font ressurgir toutes les émotions, toute la douleur qui a eu lieu. Et voilà.
Gwendal Roblin, donc tu es sociologue, tu as participé à la coordination de cet ouvrage « Avoir 20 ans à Sainte-Soline » sur lequel on va revenir, mais question plus personnelle, toi, il me semble que tu étais aussi le 25 mars dernier à Sainte-Soline, quel ressenti, quelle image personnelle tu conserves de ce moment-là ?
Oui, pour la coupure tout à l'heure, et je rejoins ce qui a été dit sur le bilan. Je pense qu'on partage tous un espèce de choc, de traumatisme des événements, de ce qui s'est passé, de la violence des forces de l'ordre et de la répression de manière générale, et qui a masqué, on y reviendra tout à l'heure, mais qui a masqué en fait, qui a masqué toute la logique de tout ce qui a fait que des gens se rassemblent à ce moment-là, les raisons qui étaient là et ce qui s'y est fait. Et puis, voilà, une deuxième sidération qui vient, je pense, après du traitement médiatique, de la qualification d'éco-terroriste et l'impression de se faire voler un peu ce qui s'est passé là, quoi, ce jour-là.
Merci Gwendal. Alors cet anniversaire, il est là grâce au bouquin, au livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline » dont on va reparler, mais aussi avec les événements qui sont organisés, qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Mathieu, comment Sinon Merci organise ou appelle à ces événements Sainte-Soline un an après, avec un appel à des booms, notamment lundi prochain, ce sera le 25 mars. C'est quoi pour vous l'objectif à travers ces événements anniversaires, Mathieu?
C'est justement de rappeler que, en dépit de cette répression violente, que ça ne, et de tous ces faux récits, que la lutte est toujours présente, qu'on n'oublie pas, qu'on ne pardonne pas ce qui s'est passé, et que cette logique de répression ne fonctionne pas. Et donc de donner à voir justement d'autres récits à travers des passages à travers la présentation de ce livre, à travers la diffusion de reportages et de vidéos, à travers des témoignages, des rencontres, des temps d'échange, de paroles. Donc on aura pour prendre un peu l'ensemble des événements qui auront lieu, donc on aura avant tout, il y a la journée du 22 mars avec des événements un peu partout dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Localement, sur les territoires autour de Sainte-Soline et de Mel, qui avaient accueilli tous les événements en marge de la manifestation, il y aura le samedi 23 mars, il y aura deux choses. La construction d'un cairn pour rendre hommage à toutes les personnes blessées. On parle de plus de 200 blessés, plusieurs pronostics vitaux engagés et des milliers de traumatismes psychologiques. Et donc il y aura un cairn pour rendre hommage à toutes ces victimes. Et l'après-midi, il y aura un tournoi des boulistes en colère. Alors pour l'anecdote, c'est dans la construction du récit de violence. Il y avait eu des saisies de matériel de tous les véhicules pendant toute la semaine qui précédait l'événement, et où il y avait y compris des boules de pétanque qui avaient été saisies. Et en fait, quand on regarde le nombre de véhicules contrôlés et le rapport de nombre de boules de pétanque saisies, en fait, ça correspond juste à une proportion, je sais pas, d'un véhicule sur 100, et donc ça correspond à des personnes qui se baladent dans temps normal avec leurs boules de pétanque. Mmh. Il n'y a pas de question de venir en manif avec des boules de pétanque ou je sais pas quoi. Et donc il y aura cet événement-là. Le lundi 25 mars, qui est la date vraiment d'un an après, jour pour jour, la manifestation en tant que telle, il y a l'idée d'organiser des rassemblements spontanés un peu partout en France, comme il y avait eu des rassemblements spontanés à la suite de cette violence en soutien aux blessés. Et comme il y avait eu des rassemblements spontanés aussi suite à la dissolution, à la tentative de dissolution des Soulèvements de la Terre qui a été retoquée par le Conseil d'État. Et donc là, il y a pour toutes ces informations-là, de façon générale, il faut aller voir le site de bassinonmerci.fr, où il y a notamment une carte qui est en train de se remplir au fur et à mesure avec les différents événements qui sont organisés un peu partout. La dernière partie. Tout de suite. À Bordeaux, il y a deux événements qui sont programmés pour l'instant. Il y a un premier rassemblement à 18h sur le parvis des droits de l'homme. Et il y aura à 20h à l'Athénée Libertaire la projection du reportage d'offres investigation dont je parlais tout à l'heure et qui donne à voir à la fois le retracé de la manifestation en tant que telle et puis le témoignage de personnes qui étaient présentes et notamment des blessés les plus graves. Et donc ce reportage d'offre investigation qui s'appelle Sainte-Soline, autopsie d'un carnage, sera projeté à ce moment-là. Il sera en accès libre sur la chaîne d'offre investigation d'ici quelques jours. Et la dernière étape sera, donc les infos aussi là-dessus, plus localement, elles sont publiées en cours de publication sur la Grappe Info, sur Démosphère Gironde. Et la dernière étape de ces commémorations organisées par Bassinon Merci, les soulèvements, etc., sera le 31 mars. À Mel à nouveau, où il y aura une journée avec la projection d'un premier reportage d'offre investigation qui est plutôt sur le fond du dossier des bassines et qui explique un peu le fond des sujets et pourquoi on considère que ce sont des aberrations à la fois écologiques, agricoles, environnementales, sociales. Et avec des passages de lecture et d'échanges autour du livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline » et avec à nouveau la diffusion du reportage « Autopsie d'un carnage ». Et il y aura aussi des tables rondes et des stands avec notamment un collectif et qui fait partie des actions qui sont menées depuis un an. Il y a un collectif de blessés, de victimes de Sainte-Soline qui s'est constitué et qui a saisi la défenseuse des droits pour l'interpeller sur la violence de la répression et sur les événements du 25 mars de l'an dernier. Mmh. Et donc ils seront aussi présents et pourront témoigner de tout ça.
Très bien. Et puis, donc ça, c'est les éléments maintenant, là, ponctuels pour ces un an après. Mais il y aura aussi plein de choses. On en reparlera peut-être tout à l'heure, l'été prochain, dans le Marais Poitevin, avec une nouvelle...
Et au printemps,
nouvelle série d'actions donc pour continuer à se battre sur ces questions-là. Gwendal, alors donc tu fais partie du collectif du Loriot qui a coordonné cet ouvrage Avoir 20 ans à Sainte-Soline. Donc on peut tous vous citer, Étienne Douat, Joanne Lebars, Mathias Lenzi, Benoît Leroux, Hélène Stevens et toi donc Gwendal Roblin. Peut-être dis-nous un petit peu ce que c'est ce collectif du Loriot et comment ça s'est créé, comment vous en êtes venu à ce livre, Gwendal?
Oui, en fait, on est tous des universitaires, enfin des sociologues et une géographe qui habitons à Poitiers, qui exerçons à Poitiers, si on accepte notre collègue Joanne Lebars qui habite à Poitiers mais qui exerce à Paris. Et en fait, on était tous présents à la manifestation de Sainte-Soline et puis celle d'avant au Printemps Maréchin, à La Rochenard ou encore au premier Sainte-Soline. Et donc, on avait ce besoin, en fait, au retour, on a senti un besoin de débriefer avec des étudiants, en fait. Et donc ça, c'est deux, trois collègues, là, Mathias Lenzi, Hélène Stevens et Étienne Douat, ont organisé une sorte de débriefing avec des étudiants. Et voilà, c'était un moment assez particulier où justement il y avait plein de témoignages de nos étudiants qu'on connaît, alors à la fois parce que ça pouvait être nos étudiants, mais aussi parce que c'était une période de manifestation contre le retraite. Et donc en fait, on les voyait régulièrement. Et donc à partir de là, la question a commencé à se poser de dire mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de ces événements et de ce récit en fait qui nous échappe pour un discours officiel, un récit de l'État quoi. Et donc là-dessus,
oui, parce qu'il faut rappeler qu'on est dans une période là juste après où il y a un tabassage médiatique sur les violences, les éco-terroristes, etc.
Oui, tout à fait, qui avait été préparé avant par Gérald Darmanin, qui avait dit « il y aura des violences, ça sera pas beau à voir ». Voilà, qui avait aussi un objectif de légitimer les violences qui allaient être faites, qui allaient être commises par les forces de l'ordre les jours suivants. Et donc voilà, avec tout ce discours autour de la figure des éco-terroristes. Et donc on est parti un peu de cette idée de dire « bon, voulait participer à ce contre-discours, hein, qu'on n'est pas les seuls, bien évidemment, on a choisi l'angle de la jeunesse, puisque c'est celui-ci auquel on a été confronté en fait avec nos étudiants. On s'est dit qu'on allait tirer, voilà, pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, quoi.
Alors, vous dites dans l'intro du bouquin que vous voulez produire de la vérité sur le monde social. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi produire de la vérité sur le monde social ? Et comment on fait quand on est à la fois sociologue et qu'on a participé à ces événements militants pour se revendiquer d'une certaine forme de vérité ?
Oui, alors c'est pas une question, une position qui est facile. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire en premier lieu un ouvrage académique. C'est un ouvrage un peu à la frontière entre les deux, puisque c'est avec nos outils de sociologues, de chercheurs, qu'on va en fait essayer de rendre compte de ce qui s'est passé. Et donc pour ça, en fait, on s'appuie sur des faits. En fait, voilà, c'est pas la vérité avec un grand V, c'est plutôt restituer celle qui a été vécue par les gens qui y sont allés et restituer les points de vue, en fait. Hein, je reviendrai dessus après, mais donc c'est plutôt ça, c'est voilà, mettre notre savoir au service de la restitution de ces faits pour reconstruire ce discours et se le réapproprier.
Et avec un truc de il est question, je crois, dans l'intro, de la question du stigmate qui est posé sur ces militants, stigmate militant, radical, terroriste.
Oui.
Comment faire pour essayer de détourner ou de passer outre ce stigmate pour redonner de la légitimité, de la valeur à à ces discours-là, à ces points de vue-là?
Oui, c'était assez prégnant, surtout à destination de ce groupe un peu indispensable, les jeunes, en fait, dont on ne sait pas trop à quoi ça renvoie, qui est jeune jusqu'à quel âge, qui dépeint tour à tour comme des casseurs violents ou alors des personnes idéalistes et béates ou encore des personnes qui viennent sans avoir aucune idée d'enjeux économiques et sociaux, en fait, et écologiques réels. Donc nous, on a voulu, en fait, tout simplement, ce qui semble tout simple, mais qui n'est jamais fait, c'est plus de les interroger, de leur donner la parole. Et en fait, c'est ça qu'on a voulu faire. Voilà. Et c'est ça qu'il n'y avait pas, qui manquait notamment sur les plateaux télé. Je pense à une contribution du texte d'Acrimed, qui est une association qui fait de la critique des médias et qui a montré, en fait, dans un des chapitres, comment les BFM TV notamment, mais aussi les chaînes d'information continue en général, ont en fait fait ce qu'on appelle du journalisme de préfecture, c'est-à-dire qu'ils ont reproduit les communiqués de la préfecture sans aucun recul critique. Ils ont invité essentiellement des forces de l'ordre ou des responsables politiques de la majorité ou opposés au projet de méga-bassine. Et donc voilà, donc tout simplement, en premier lieu, en redonnant en fait la parole à ces enquêtés, assez jeunes, et donc en les interrogeant. Et ce qu'on a fait globalement, c'est qu'on a retranscrit en fait par l'intermédiaire d'un portrait leur réponse.
Alors, et alors effectivement, ça donne une forme qui est hyper, en tout cas, qui est loin du cliché de l'ouvrage académique lourd, dur à lire, etc. Avec un mélange, donc, comme tu le dis, de témoignages directs de participants, participantes à cette mobilisation, de militants d'autres lieux aussi, d'autres collectifs, d'intellectuels, de philosophes, de sociologues, d'artistes, photographes, cinéastes. Et comment vous en êtes arrivé à ce mélange-là, et comment les uns et les autres se nourrissent peut-être ?
Oui, déjà en premier lieu, l'enjeu c'était déjà de restituer cette parole par les premiers concernés, donc d'interroger ces jeunes qui étaient présents. Et dans un second temps, on s'est aussi dit, en fait, c'est bien pour comprendre la place de ces jeunes et participer au contre-discours. Ces portraits, c'était bien, mais c'était pas suffisant. En fait, on voulait aussi les mettre en regard avec d'autres éléments. Alors déjà, des éléments très très factuels de qu'en est-il de ces bassines, quels sont les enjeux. Donc, on a fait pour ça appel à, voilà, par exemple, à Anne Marouen Pastier, qui est une habitante qui est chercheuse en sciences de la Terre et qui habite dans le Poitou également, pour un peu expliciter tout ça. Et puis voilà, tous ces textes d'intervention, comme tu dis, ils avaient aussi pour but d'éclairer ce contre-discours et ces positions qu'avaient ces jeunes. Et l'objectif, c'était aussi l'enjeu, c'est que ça soit accessible, de faire des textes courts. Donc, le plus gros ouvrage, c'est ces portraits de jeunes, et les textes d'intervention, qu'ils soient de chercheurs, d'artistes ou de témoignages, ils sont beaucoup plus courts. Et ils se répondent entre eux, surtout. Et donc, il y a une espèce de cohérence, en fait, entre tous ces textes. Il y en a 29 au total, donc c'est assez fourni. Mais voilà, je pense que la richesse de cet ouvrage, c'est aussi la cohérence entre ces différents formats qui vont se parler. Par exemple, il y a deux livres photos dans l'ouvrage. On va voir une photo de l'outarde et on va voir aussi qu'elle a un rôle et qu'elle revient dans les discours de certains enquêtés. Et pareil,
alors, l'outarde, il faut dire, c'est l'outarde canepetière, qui est donc une race d'oiseaux présente à Sainte-Soline et qui est mise en danger par la construction de ces bassines.
Tout à fait. Et en fait, voilà, pour la manifestation, il y avait une énorme outarde qui avait été construite en bois, en fait, qui était assez, donc qu'on a remis en photo dans l'ouvrage, et qui servait en fait pour le convoi outarde rose, enfin le groupe outarde rose, en fait, et l'objectif était de la placer dans la bassine. Voilà.
Puisqu'il y avait donc trois convois, trois cortèges avec des couleurs et des animaux associés. Peut-être un mot, Mathieu, sur comment vous, à Bassines dans Mercy, vous avez reçu ce projet et ce livre-là qui vient de paraître.
Mais effectivement, moi je voulais rebondir sur ça, parce que c'est comme je rejoins complètement Gwendal, c'est indispensable de ne pas se laisser accaparer le récit et ce qu'on a vécu ces jours-là, et ce qui a marqué dans la chair ou dans le cœur les personnes qui étaient présentes. Et j'ai dit tout à l'heure, mais on voit bien que ce récit gouvernemental, il s'enferme dans une... Il ne fonctionne pas, mais il veut s'enfermer dans une répression de plus en plus violente, dans la criminalisation, que ce soit des mouvements sociaux ou environnementaux. On l'a vu, comme disait Gwendal, sur les mouvements des retraites, sur les luttes environnementales avec la répression des bassines, sur les luttes environnementales avec la lutte contre la 69 en cours actuellement, avec les écureuils, ces personnes qui vivent dans les arbres pour empêcher l'abattage de ces arbres. On l'a vu avec la répression ultra-violente des mouvements de révolte dans les quartiers suite à l'assassinat de jeunes. Et à chaque fois, c'est encore une fois les plus précaires qui souffrent et qui en sont les premières victimes. Et donc c'est indispensable de construire d'autres récits à ce niveau-là, et à ce niveau-là, l'apport qui est fait pour avec le livre d'avoir 20 ans à Sainte-Soline est indispensable et plus que bienvenu. Il s'inscrit dans tout un tas d'autres de formes de récits, de témoignages, de présentation de la réalité qu'on a vécue directement par les personnes concernées, par les personnes qui l'ont vécu. Et par exemple, sur un point de vue plus artistique, il y a eu aussi un fanzine bande dessinée, mais pas que, qui a été publié par un collectif militant par ailleurs, donc ça s'appelle Zadine, et qui donne la place à des récits de personnes qui étaient présentes. Il y a sur un aspect très factuel, il y avait le rapport des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui a été publié et qui donne à voir un récit minuté et très très précis et méthodique et dont la conclusion est qu'il y a eu un déchaînement j'ai plus les termes exacts, mais un déchaînement incommensuré et disproportionné de violence sur l'ensemble des manifestants. Il y a aussi le fait d'avoir eu plusieurs reportages, donc comme celui de complément d'enquête, Manif, la guerre est déclarée, celui d'offre investigation, Sainte-Soline, autopsie d'un carnage, où on voit notamment les témoignages de quelques personnes qui font partie des blessés les plus graves, celles dont les pronostics vitaux étaient engagés. Et donc, comme on peut le lire dans le livre, on voit des personnes qui sont impressionnantes de par leur lucidité, dans leur détermination, dans leur calme. Ils et elles savent pourquoi ils étaient présentes et pourquoi cette lutte est indispensable, comme toutes les luttes sociales et environnementales qu'on mène.
Et bien justement, on va se remettre un petit peu dans l'ambiance et écouter quelques-uns de ces témoignages.
Au début, j'allais seulement aux manifestations climat, des déambulations dans les rues. Ensuite, j'ai fait les manifs sécurité globale, là où je me suis fait gazer pour la première fois, puis Sainte-Soline, puis la réforme des retraites, avec cette fois plus de manifestations sauvages. Ma façon de militer change. Au fur et à mesure, elle évolue, elle devient plus radicale. Avant, j'étais militant de gauche modéré, maintenant, je suis militant anarchiste radical. Je sens que je peux faire des trucs que je ne faisais pas avant. Je suis prêt à subir des lacrymos, beaucoup plus qu'avant. Je suis prêt à l'affrontement, même si je ne le recherche pas. Sainte-Soline, c'est ma première grosse manifestation. Ça a marqué quelque chose. J'irai plus du tout manifester pareil. Il ne suffit plus d'aller dans les rues et dire « on n'est pas d'accord avec les bassines ». Non, on va sur la bassine, c'est plus concret. Surtout que moi, l'image que j'ai du climat, c'est que dans 20 ans, c'est la grosse sauce. Si on ne fait rien, j'ai vraiment l'impression qu'on va foncer dans un mur. Et je le vois déjà, le mur. Je ne suis pas en mode « non, non, c'est bon, l'humain, il va réussir ». Non, non, en fait, l'humain, je pense qu'il ne va pas réussir. Même si j'essaie de me battre, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas, et ça va faire très mal.
J'étais trop content d'avoir une lutte très précise à rejoindre, avec une dimension où cela parle de ma région, de là où j'ai grandi. Donc, un investissement sentimental, quand même beaucoup plus fort que dans les autres choses que j'avais faites avant. Il y avait ce truc de sidération directement, car nous, on était sur la route, un peu en surplomb, et on avait un spectacle permettant de voir toutes les phases du paysage, avec l'organisation policière, la bassine, les techniques des autonomistes qui s'avançaient. Ce spectacle nous a sidérés, et tout le cortège rose s'est arrêté pour regarder ce qui se passait. Surtout les quads, qui commençaient à faire le tour du cortège le plus hardcore et à balancer des grenades. Déjà, alors que le cortège n'était pas encore arrivé. Donc on se dit, ah bah oui, d'accord, il y a déjà du gaz alors qu'on n'est même pas face à la police. Le lendemain, mes parents m'appellent en me disant qu'il y a un de leurs amis à l'hôpital car il a reçu un éclat de grenade de 2 cm dans l'os de la jambe et qu'il doit se faire opérer en urgence et que l'hôpital de Poitiers est complètement saturé par des gens blessés. Eux sont complètement traumatisés car ils sont venus avec cette personne et à un moment, ils ont décidé de s'avancer dans la manifestation car ils ne trouvaient plus leur ami. C'était horrible. Et en plus, au moment où ils se sont approchés pour essayer d'aller l'aider, ils ont reçu des grenades, se sont fait encercler par les quads, qui les ont lancé des grenades de derrière, alors qu'ils étaient méga, méga loin de ce qui se passait. Et putain, il n'y avait aucune protection. Ils étaient en chaussures de ville, avec leurs vêtements de tous les jours, sans masque, ni rien. eh bien en fait, ça aurait pu être eux qui se retrouvent à l'hôpital. Je me suis rendu compte en soirée qu'il fallait absolument que je voie des gens, que je partage des trucs, car j'étais en train de m'engouffrer dans un truc ultra profond, ultra dark. Et je suis donc allée voir mes parents. Là, je les ai retrouvés. Je ne les avais jamais vus comme ça, jamais de ma vie. Ils étaient trop choqués. Ils étaient dans le mal. Ma mère ne savait plus qui elle était. Elle n'était plus du tout en confiance. Elle ne savait plus si elle était une bonne médecin. Et en même temps, eux, ils n'étaient pas venus à Mel le soir et le lendemain. Ils étaient rentrés de Sainte-Soline et ils ont regardé les infos à la télé. Ils ont commencé à avoir le discours issu des informations et non de leur vécu à Sainte-Soline, où mon père était un peu en train de vociférer contre les Black Blocs. Et d'avoir ce truc, je ne veux plus appartenir à une lutte où on veut tuer du flic. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y allait avoir un enjeu de narration sur ce qui s'est passé, et que mes parents étaient en train peut-être de glisser dans la narration médiatique, officielle, des événements alors qu'ils étaient eux aussi manifestants à Sainte-Soline. L'enjeu dans les prochains jours allait être de contrecarrer ce discours qui allait être une machine médiatique et politique, qui allait écraser nos vécus personnels pour essayer d'avoir une narration de leur événement qui soit contrôlée politiquement et policièrement. Donc je leur ai dit qu'il fallait qu'ils se racontent leur propre histoire à eux, en premier lieu, que ce n'est pas forcément aux médias de leur dire ce qui avait été, et que l'événement, parce qu'il avait été partie prenante, et qu'ils avaient tout à fait la légitimité de raconter leur propre histoire. En fait, je pense que ce que j'essayais aussi de retrouver en allant les voir, en débriefant, c'était une forme d'amour face à toute la violence qu'on avait vécue.
Voilà, on vient d'entendre deux témoignages, deux extraits du livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline » lu par Léa et Myriam de La Clé des Ondes. Gwendal Roblin, je rappelle que tu fais partie des coordinateurs de cet ouvrage et que tu es sociologue. Tu parlais tout à l'heure de restituer des points de vue. J'imagine que ça n'a pas été si compliqué de trouver des points de vue, de trouver des intervenants. Mais peut-être la question qui se pose, c'est celle de la représentativité, de comment avoir le plus de regards différents qui correspondent à la manière dont plein de personnes ont ressenti différemment ce qui s'est passé à ce moment-là. Gwendal ?
Oui, déjà, on savait qu'on... en fait, on n'a pas joué le jeu de la représentativité dès le début, puisqu'on savait qu'il y avait potentiellement autant d'expériences de Sainte-Soline qu'il y avait de personnes. Et en fait, ce qu'on a essayé surtout de faire varier, c'est les profils de militants. Ce qu'on craignait, c'est par exemple, au début, d'avoir que des étudiants, puisque voilà, on travaille à l'université. Si on cherche des jeunes, entre guillemets, ben, en fait, on les trouve là. D'autant plus qu'on avait déjà amorcé avec eux, par le débriefing, une forme de travail un peu réflexif. Alors, il se trouve que du coup, on a cherché à élargir nos horizons, et en fait, finalement, dans l'ouvrage, il n'y a aucun étudiant, donc ce qui est assez paradoxal.
Mais, alors, c'est quoi justement ces différents profils ? Tu parles de profils, est-ce qu'on peut quand même dresser comme ça, sans faire un portrait robot unique, ouais, mais plusieurs profils typiques des jeunes, de ceux qui ont eu 20 ans à Sainte-Soline ?
Oui, ben par exemple là, en tout premier, on a entendu Mathis, en fait, qui avait 17 ans à Sainte-Soline, qui lui est lycéen. Ensuite, vous avez entendu le plus grand extrait, c'était Yael, qui est plasticien. Vous avez aussi une ancienne maraîchère, une soudeuse intérimaire, une psychomotricienne, et là j'ai plus trop une enseignante. Voilà, il y a une diversité des profils qu'on a essayé de faire varier, et donc pour les trouver, c'est jeune, hein, je remets des guillemets, hein, parce que voilà, c'est un terme qui est forcément un peu galvaudé, surtout dans ce contexte. Donc en fait, on a utilisé un peu ce qu'on fait d'habitude en sociologie pour essayer de trouver des enquêtés. On passe par des réseaux, donc des réseaux qui peuvent être plus ou moins proches, et puis voilà, jusqu'à trouver, par exemple, un profil qui nous convient, ou alors ça peut arriver qu'on fasse des entretiens, ce qui s'est passé là, comme souvent. On fait un entretien, puis on se rend compte que, bah non, ça va pas le faire parce qu'il ressemble trop à un autre, que voilà, les éléments qui sont dégagés, en fait, sont ressemblent à l'autre. Donc en fait, il faut faire un choix. Et donc là, voilà, je pense qu'on a fait peut-être 15 ou 20 entretiens sur les 8 sélectionnés là. par exemple.
Et alors, pour ces personnes-là que vous avez interrogées, est-ce que vous avez pu analyser, retirer quels étaient les ressorts principaux, ce qui avait amené ces jeunes à cet endroit-là? Et est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, paraît banal, logique, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un changement dans la manière de se politiser, de se mobiliser, de se rendre sur des événements, d'avoir des actes militants différents? Est-ce que pour vous, si on prend du recul, Sainte-Soline, ça représente quelque chose de nouveau, dans la continuité, ou comment vous voyez ça?
Alors déjà, je pense qu'il faut être très prudent, hein. Comme je le disais, c'est pas un travail sociologique. Et donc il faut faire, en fait, pour déterminer un peu des points, des turning points, des tournants biographiques un peu socialisateurs importants, ça nécessite un peu du temps long et plus de recul que ce qu'on a fait là, puisqu'on les a surtout fait à chaud quelques mois après les événements. Mais par exemple, le portrait de Matisse qu'on a entendu tout à l'heure, hein, un peu plus tôt, le passage là montre bien que pour lui, a priori, hein, faudrait voir ce qu'il en est un peu plus tard. Ce Sainte-Soline a été pour lui un tournant dans son engagement politique. Il s'est syndiqué après Sainte-Soline, syndicat lycéen. Il appréhende d'une manière différente les manifestations et la question de la violence aussi. Je pense que tout ça, le rapport à la violence, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément au travers de nos enquêtés, soit parce qu'ils ont été concernés avant par cette question. Je pense à Laura qui a fait sur les gilets jaunes, qui en fait en a été traumatisée et donc aurait très bien pu ne pas venir, mais qui s'était détournée des manifestations pendant un long moment. Et puis ensuite, pour la question des bassines, s'est dit je ne peux pas ne pas y aller, quoi. Et donc, ce tiraillement chez certains enquêtés entre le risque de venir, la volonté et puis les craintes en fait de faire face à un état, enfin à la répression qui les a profondément marqués.
Et alors justement là-dessus, on à la fois sur le moment et puis dans cet ouvrage, on voit à la fois une forme de fusion entre des actions radicales, des actions plus classiques, et en même temps des tiraillements, des débats, notamment après la manifestation, de dire mais est-ce que ça vaut le coup de faire ça, est-ce que on n'est pas allé au carnage pour rien, ces questions, elles sont là, elles sont présentes, mais elles se posent de manière assez forte parmi les personnes que vous avez rencontrées, Gwendal?
Oui, bien sûr. La violence de la répression a forcément amené à ces questionnements. Je pense que ce que Sainte-Soline a très bien géré jusque-là, c'était la question des modalités d'action entre action radicale et action plus classique. Et je trouve que dans l'ouvrage, il y a le portrait de Morgane qui revient sur cette question, qui est une militante plutôt qui fait plutôt partie de la gauche institutionnelle, qui pratique pas les actions radicales, qui peut y être assez opposée, en fait, qui dit dans l'ouvrage, en fait, il y en a eu, il y en a, il y en aura encore. Du coup, la question, c'est pas est-ce qu'on les critique, est-ce qu'on dit que est-ce qu'on dit qu'il faut les abolir, c'est plutôt comment on fait avec.
Elle parle quand il dit il y en a, il y en a, il y en aura.
Avec des actions violentes de manifestants, l'action radicale. Et donc cette question, c'est de dire il y en a eu, il y en a, il y en aura encore, mais la question, c'est peut-être pas de dire on n'en veut pas ou ça nous dessert, mais plutôt comment on fait avec. Et je pense que la question de Sainte-Soline, c'est ce qui a invisibilisé la question de la violence, c'est aussi la diversité des formes de d'action. Vous aviez des gens qui faisaient la manifestation. Parmi tous ces gens qui ont marché, tout le monde n'a pas jeté des cailloux, par exemple. Je pense même qu'il y en avait finalement très peu en proportion. Et puis il y avait aussi des gens qui n'étaient pas là, mais qui organisaient, par exemple, la cellule juridique, le soutien psychologique derrière. Il y a eu tout un travail qui a été fait pour justement permettre à toutes les personnes qui ont plus ou moins de disposition à tel ou tel engagement, que ce soit violent ou plutôt de soutien, en fait, à investir la lutte. Et je pense que voilà, la commémoration là, les 1 an va aussi être l'occasion peut-être de réaborder cette question en faisant un bilan. Moi, je pense à un portrait, je sais plus si c'est Marcel ou Noémie qui nous a dit, qui est une militante BNM ou Soulèvement de la Terre, qui nous dit ce qui s'est passé à Sainte-Soline ne doit pas se reproduire. Ce n'est pas d'envoyer les gens au casse-pipe, évidemment. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est la police qui fixe le niveau de violence, c'est l'État. En fait, il faut rappeler que ce qu'on protégeait tout ce régiment, c'est plus ces régiments de CRS, c'est un trou où il y avait, à l'intérieur duquel il n'y avait même pas la bâche. Donc en fait, s'il n'y avait pas eu de représentants des forces de l'ordre, il y aurait juste eu des militants dans la bassine et l'outarde aurait été dans la bassine et il n'y aurait pas eu 200 blessés, il n'y aurait pas eu plusieurs personnes au pronostic vital engagé. Voilà, donc c'est aussi ça dont il faut se rendre compte, c'est l'État qui fixe le niveau de violence pour protéger quoi. Alors derrière ce trou, il y avait pas seulement une bassine, mais aussi le symbole d'une agroéconomie très particulière. Donc je pense que c'est aussi ça qu'il faut interroger.
Il y a qui ressort aussi dans l'ouvrage plein de tensions qui parcourent, je pense, le monde militant en général, notamment la question du virilisme face à plus d'une forme de prudence ou de soin. On a vu aussi qu'à Sainte-Soline, il y avait beaucoup de choses déployées pour prendre soin les uns des autres, pour faire attention aux violences sexistes et sexuelles, aussi à l'état de chacun, chacune après les événements. Une autre chose qui ressort, c'est celle des échanges intergénérationnels, même si là, vous êtes focalisé plus sur ceux qui ont eu 20 ans. Il y a aussi cet élément important de il y avait aussi des vieux présents à Sainte-Soline et il y a eu des échanges et il y a pas forcément de tensions et de conflits, mais plus des transmissions, des échanges entre ces générations. Gwenaëlle?
Oui, là, il y a un texte de Bertrand Jay, qui est sociologue, qui réside à Poitiers, qui s'appelle Transmission et qui pose un peu ces questions-là en partant des mobilisations altermondialistes qui ont eu lieu, je pense, dans les années 90 et qui ont commencé à poser ces questions d'écologie, de lutte, de système, enfin de lutte anticapitaliste, et on voit en fait comment ça dialogue à l'intérieur de ces à l'intérieur du livre et puis bien sûr à l'intérieur des, enfin entre les militants. Je pense que les militants bassines non merci ou soulèvement de la terre et les groupes locaux, il y a des classes d'âge différentes. Et cette question de comment on part en fait des manifestations altermondialistes qui avaient qui se voulaient du coup mondiales, voilà, qui voulaient avec des forums sociaux mondiaux, avec des manifestations internationales, ont finalement commencé à se dire ce qu'il faut, c'est peut-être plus un ancrage local comme ce qui se passe à Sainte-Soline, comme ce qui se passe autour de la 69, ce qui a été évoqué précédemment, et qui dit en fait il y a des gens qui investissent des causes locales parce que c'est chez eux. Et en fait, comment finalement de porter cette lutte peut aussi amener en fait à des manifestations d'ampleur au moins conséquente, voire plus, comme c'était le cas à Sainte-Soline, où en fait il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont des personnes qui venaient de très loin.
Et alors, une question qui n'est pas forcément dans le livre, mais c'est celle de qui n'était pas à Sainte-Soline. Quel jeune, quelle personne de 20 ans n'était pas à Sainte-Soline et ne sont pas rentrés, pas encore du moins, dans cette mobilisation-là, Gwendal?
Alors, peut-être que le discours de Gérald Darmanin, des représentants du gouvernement et de la police, on peut dissuader certaines personnes à s'engager. Et puis il peut aussi y avoir aussi un enjeu à comprendre ce qui se passe derrière ce projet de méga bassine, en fait, tout l'enjeu d'assèchement des nappes phréatiques, des cours d'eau, en fait, et la crise économique et climatique vers laquelle ça nous envoie. Je pense que c'est une vraie question de savoir qui n'y était pas, mais qui nécessite beaucoup plus de qui c'est un travail supplémentaire en soi pour comprendre un peu les enjeux, les ressorts de l'engagement, quoi.
Mathieu, tu es toujours là, tu nous écoutes depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as des réactions à tout ce qu'on a dit?
Ouais, il y en aurait plein. Je vais essayer d'être assez court, mais j'ai envie de rebondir sur quelque chose. Je souscris tout à fait à tout ce qu'a dit Gwendal dans l'ensemble. Et c'est vrai que pour illustrer que la répression est à l'origine des violences. On le voit particulièrement dans le cadre du mouvement agricole qui a eu lieu en début d'année, où on a eu des actions beaucoup plus violentes qui ont été portées à l'égard de bâtiments, de bâtiments dégradés, il y a même un bâtiment qui a explosé, etc. Et où là, il n'y a eu aucune opposition des forces de l'ordre, voire un accompagnement parfois, et on n'a pas de blessés. Et donc c'est bien politique de répression et de criminalisation qui est à l'origine des blessés. C'est une première chose. Je me retrouvais, j'étais très touché par les deux témoignages qu'on a pu avoir à entendre. Je me retrouvais aussi dans cet aspect de radicalité et de rapport à la violence, dans le sens que la radicalité, c'est au sens propre, au sens premier, c'est le fait d'aller chercher à la racine des choses. Et clairement, ces bassines, si on va à la racine des choses, c'est un énième outil pour permettre de pérenniser, de faire subsister un petit peu un modèle agricole, agro-industriel, extractiviste, et qui est à l'origine de l'accaparement de l'eau, des terres, de la destruction des milieux et du vivant en général, et y compris de la santé humaine et de celle des agriculteurs en premier lieu. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental de revenir à tout ça. Et que du coup, ce rapport à la violence, bah oui, comme le disait le premier témoignage, Mathis, si je me rappelle bien, on ne cherche pas cette violence-là, mais on est prêt à la subir ou à l'affronter en tout cas de plus en plus, parce que justement on fait face à une violence qui est beaucoup plus grande et à une urgence beaucoup plus grande. On a une sixième extinction de masse en cours, on a une destruction des milieux, on a vraiment une urgence à agir. Et c'est pour ça aussi que par rapport à cette diversité des pratiques, replacer dans un historique de cette lutte en particulier, mais qu'on retrouve dans l'histoire des luttes en général, c'est des questions qu'on se pose régulièrement. Là, sur le mouvement des bassines, il y a eu pendant plusieurs années des manifestations festives, familiales, joyeuses, avec des concerts et des chaînes humaines et des choses comme ça, et des recours juridiques. Et malgré cela, les premiers chantiers ont commencé en dépit de tout ça. Et donc, on se rend compte, on se sent un peu démuni et on se ressent une forme d'impuissance devant l'inefficacité des pratiques, on va dire, plus conventionnelles, plus modérées. Et on se retrouve devant une forme d'urgence à agir, et donc de devoir composer avec, je pense, avec une diversité des formes de lutte, à la fois pour que chacune puisse y trouver ces moyens d'agir et de qui lui correspondent, à ce que chacun est prêt à investir dans la lutte. Il y a des personnes, et on retrouve aussi donc cette grande diversité qu'on peut illustrer dans le livre, mais dans l'ensemble du collectif et des luttes en général, avec des personnes qui viennent de tout âge, de tout horizon, de tout milieu socio-professionnel. Et même si ça serait très intéressant de creuser justement sur les personnes qui y sont, celles qui n'y sont pas. Voilà. Mais du coup, on a cette diversité-là des personnes et des diversités de formes de lutte. On dit que la biodiversité le vivant a besoin de biodiversité, les luttes aussi, et je pense qu'il y a une complémentarité de ces formes de lutte.
Merci voilà. Mathieu, en 30 secondes, donc on a dit qu'il y avait lundi pour la commémoration rassemblement à 18h au Parvis des Droits Humains et à 20h projection à l'Athénée Libertaire. Peut-être tu peux nous dire en 30 secondes les prochains événements ensuite au printemps et cet été?
Alors il y aura les suites des actions juridiques qui se poursuivent avec des annonces imminentes aussi là-dessus. On aura une des mauvaises nouvelles, c'est qu'il y a des projets de méga-bassines qui poussent un peu partout. Il y aura un grand rassemblement dans le Puy de Dôme le 11 mai. Donc là, vous pouvez aller chercher les informations aussi sur le site Bassines en Merci, qui recense l'actualité des luttes des différents collectifs Bassines en Merci qui poussent un peu partout où surgissent des projets de méga-bassines. Donc le 11 mai dans le Puy de Dôme. Et puis on aura également un très gros rassemblement du 15 au 21 juillet cet été, à nouveau dans le Poitou, avec une lutte internationale, avec à nouveau des manifestations et des actions, et aussi des rencontres, des tables rondes, des moments d'échange sur les luttes, etc. Et puis on a la nouvelle saison des soulèvements de la terre qui est aussi en publication, et qui donc va permettre de nous aider à aller regarder aussi du côté des soulèvements de la terre, avec toutes ces luttes qui font corps dans des territoires un peu partout.
Merci beaucoup Mathieu, je rappelle donc que tu fais partie de Bassines Non Merci. Merci beaucoup Gwendal Roblin, tu fais partie Merci donc du collectif du Loriot qui a publié cet ouvrage « Avoir 20 ans » à Sainte-Soline aux éditions La Dispute. Merci beaucoup à vous deux, et on termine avec une chanson dont les paroles se trouvent dans le livre. Ça s'appelle « 1100 », « 1100 » et c'est par le groupe Tchak Boom.
As-tu vu ce cortège? Bon de là, quelle belle noce! De la terre et de l'eau, la chaline et du vent. De femmes jeunes ou vieilles, de voisins et leurs gosses. De chevreuils ébahis et des oiseaux chantants. Nous sommes venus nombreux du fond de nos villages, des villages que nos vieux ne reconnaissent. passe plus. Ils ont été vidés et vendus nos campagnes à la spéculation qu'on ne rassasie plus. Nous étions cent, nous étions mille, nous étions mille et cent. Nous étions cent.